rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission animée par Nathalie Croiset.
Et donc, tous les mois, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. La question qu'on pose aujourd'hui, un peu en forme de provocation, on va dire, la qualité de l'air intérieur est-elle le parent pauvre du bâtiment? On le sait, nous passons la plus grande partie de notre temps dans un espace clos, hein, on va dire 80 à 90% du temps. C'est pourquoi il faut être particulièrement attentif à la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Et évidemment, la crise sanitaire que l'on traverse actuellement ne cesse de nous le rappeler. Donc, on va dire que c'est vraiment un sujet malheureusement d'actualité. Pour en parler, nous sommes ici en studio avec Pascal Housset, bonjour.
Bonjour.
Qui est donc président de l'Association française de la ventilation. Peut-être quelques mots pour préciser cette association qui est assez nouvelle. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une association que nous avons créée donc en janvier 2021, donc qui est toute jeune. Rapidement sa composition, hein, oui. Finalement, donc c'est une filière professionnelle puisqu'on y retrouve les installateurs au travers d'organisations professionnelles telles que la FFB, la CAPEB, les mainteneurs avec le CINASAV, le FEDEN, le SNEFCA, Uniclimat pour les industriels et pour finir la FNAS pour les distributeurs.
Voilà, évidemment.
C'est sa composition.
Ouais. Et on va parler des solutions que vous proposez justement pour, on va dire, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Bruno Georges, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez l'association d'ingénieurs ICO, Ingénierie du Confort, Objectif 2050, c'est ça? Alors, quelques mots pour vous présenter.
C'est bien ça. Alors, cette association, elle existe depuis les années 90. Et depuis les années 90, c'est initialement que des ingénieurs et depuis il y a aussi des industriels, des prestataires, des entreprises, il y a de la presse. Mmh. L'objectif, c'est un groupe dans lequel les échanges sont vigoureux, dynamiques, agiles et intéressants, avec des gens qui sont assez spécialistes de toute l'ingénierie autour du vecteur eau. C'est un peu l'histoire de notre association. L'objectif, c'est l'intelligence collective, ça marche toujours mieux que des choses qui marchent soit en cascade, soit en parallèle. Et il y a vraiment une association dans laquelle la convivialité, les échanges, on est une assemblée générale qui est dans mes quartiers, dans les montagnes, à Chamonix, chaque année, et qui est le siège d'échanges absolument passionnant. Et on est proposant aussi, puisqu'on fait des journées techniques, on fait des universités, on fait des formations. Et donc, cette association est là un peu pour faire avancer la réflexion. 2050, ça peut paraître loin, mais vraiment, il faut s'y mettre tout de suite.
Exactement, on en parlait d'ailleurs précédemment avec Dominique Naert. Et nous sommes également en ligne avec Souad Boualala-Selmi. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Peut-être pas.
Bonjour, mais je n'entends pas.
Ah, vous n'entendez pas.
Bonjour.
Alors.
Ah, voilà.
Voilà, vous entendez, parfait.
Bonjour, je n'entendais pas non plus, donc du coup, si on est deux, tant mieux.
Voilà, parce qu'on a un autre intervenant en ligne, Fabien Mercier, que j'entends conjointement.
Alors, ben oui, j'espère aussi.
Alors, vous m'entendez? Vous avez l'air de discuter tous les deux, donc c'est très bien, mais si vous m'entendez, c'est parfait. Souad Boualala-Selmi, ingénieur qualité de l'air à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Si vous m'entendez bien, quelques mots supplémentaires pour vous présenter, même si l'ADEME, on commence évidemment à connaître et vous avez déjà été présent sur cette émission. Alors, visiblement, on a des problèmes de son ce matin et parfois quand ça commence, c'est comme les problèmes de métro, ça devient compliqué. Alors on a perdu Souad. Fabien Mercier, est-ce qu'il m'entend à tout hasard? Alors, qui est donc, on a voulu avoir un représentant, on va dire, je perds mes mots, bailleur social, donc on espère qu'on va le retrouver dans un instant, on me l'indiquera comme on dit dans mon oreillette. Alors je voulais parler pour commencer des enjeux évidemment de la qualité de l'air intérieur. Il aurait été parfait d'avoir Souad Boualala-Selmi en introduction, mais c'est pas grave, on va en parler avec nos autres intervenants en plateau en espérant les retrouver incessamment sous peu. Peut-être Bruno Georges, commencez par vous parce que c'est aussi un sujet dont on parle régulièrement, des enjeux vraiment majeurs. Des enjeux qui sont évidemment économiques, hein, bon, j'allais dire écologiques, et puis surtout des enjeux de santé.
Tout à fait. Pendant quelques années, on a dit le confort, c'est la température, par exemple. Des tas de choses comme ça, inventées par des ingénieurs. C'est terrible, les ingénieurs, j'en suis un. Et ce contexte, cette perception de ce qu'on doit faire, parce que sans les humains, il n'y a pas besoin de faire des bâtiments. Mmh. Donc, il n'y a pas besoin de nous. Donc, avant tout, il faut remettre l'humain au milieu. C'est bien le sujet. Et cette notion de santé, et moi, je dirais presque mieux bonne santé, parce que la santé où on est juste comme ça, prêt à mourir, ce n'est pas de la bonne santé. Donc, la bonne santé des gens, c'est quelque chose de complexe. Il y a la santé physique, il y a la santé psychique. Et aujourd'hui, cette histoire de remettre l'humain au milieu de toutes ces conceptions techniques, parce que sans la technique, souvent, il n'y a pas grand-chose non plus, et, devient vraiment majeur. Mmh. Et dans le panel de choses auxquelles il faut faire face, la lumière naturelle, la qualité de l'air, etc., devient quelque chose d'important. Alors effectivement, historiquement, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Il y a des tas de réglementations françaises encore aujourd'hui qui sont issues vraiment d'on ne sait où, sûrement pas de gens du corps médical, et qui font qu'on est un petit peu en retard en France par rapport à d'autres pays du nord-est de l'Europe ou des choses comme ça, y compris des Américains. Et donc, on est en train de revenir vers ça. C'est un changement, je pense, culturel. Mm-hmm. On va dire évolution, ça va être plus positif, qui est vraiment nécessaire parce que, comme vous le disiez en introduction, 80-90%, voire encore un peu plus pour les petits, tout petits enfants et pour les personnes âgées, on est à l'intérieur des bâtiments. Et c'est un vrai sujet.
Souvent, on dit que c'est 8 à 10 fois plus pollué l'air intérieur que l'air extérieur. Parce on nous parle souvent de la pollution extérieure, la circulation des voitures, en disant qu'il vaut mieux pas être à côté d'un grand axe. Mais à l'intérieur, c'est encore plus pollué.
Tout à fait. Alors, je ne m'engagerai pas sur les 8 à 10 fois. En tout cas, il y a quelque chose qui est clair, c'est que la technique qu'on utilise mondialement, planétairement, c'est ce qu'on appelle le balayage. On prend de l'air extérieur et on balaye les locaux dans lesquels les gens vivent, travaillent, de manière à ce qu'on essaye d'enlever les polluants. Et ça, c'est une approche qui est historique et qui commence à un peu montrer ses limites. Quand on entend parler de ce qui se passe à Bangkok ou à Pékin et qu'on voit la qualité de l'air qu'on jugerait aujourd'hui en Europe inadmissible, et que c'est l'air extérieur et qu'on pense qu'on va nettoyer l'intérieur avec cet air-là, ça pose question. Donc c'est un vrai sujet, cette qualité d'air intérieur. C'est un sujet de santé. Il y a plus de 100 000 morts avec les particules fines en France par an. Ça se voit pas. Et c'est pour ça qu'on en parle peu.
C'est le chiffre de 100 000 morts. J'avais lu 48 000, mais voyez, on passe du simple au double. Comme quoi, voyez, on n'a jamais les mêmes chiffres.
Alors, le truc, c'est que c'est toujours ces chiffres, balancés un petit peu comme ça. C'est entre le direct, l'indirect, l'induit, le co, etc., etc. C'est pas... Donc, en tout cas, on n'est pas à quelques dizaines de milliers de morts près. C'est terrible de dire ça.
Oui, j'allais vous dire mais en tout cas, c'est une vraie réalité de santé.
C'est une forte échelle. C'est un vrai sujet.
Alors, Pascal Housset aussi, comment vous l'abordez, on va dire, un peu sociologiquement, finalement, ce sujet aussi de la qualité de l'air, avant de passer, on va dire, aux solutions.
Oui, alors, effectivement, comme Bruno l'a dit, il y a un constat et qui a été amplifié par cette période de Covid. Je vais prendre un exemple très concret sur l'aspect sociétal, c'est les écoles. Il y a une étude là récente qui démontre que finalement très rapidement on arrive dans les classes à monter à des niveaux de CO2 très très importants finalement. Et cette étude démontre aussi qu'il y a une perte de connectivité en fait des enfants à plus de 1000 ppm. Donc très rapidement on s'aperçoit que ça a un impact aussi sur l'apprentissage à l'école. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas forcément été mesuré.
Alors, on va continuer à échanger avec vous, mais on vient de retrouver, vous savez, ce sont les aléas du direct, nos deux intervenants. En tout cas, ils peuvent nous entendre. Souad Bolala Salmi, vous êtes bien avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, je vous entends bien cette fois-ci.
Parfait. Alors, ingénieur qualité de l'air à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a déjà été présente sur ce rendez-vous, je le disais en introduction, en vous présentant. Peut-être quelques mots supplémentaires pour vous présenter.
Oui, alors je suis ingénieure qualité de l'air, donc je travaille sur tous les aspects, la prise en compte de la qualité de l'air intérieur à travers les projets de recherche, à travers de la sensibilisation, communication, et ça bien sûr en lien avec mes collègues des autres services transversaux, bâtiments, sols pollués et les services de la communication, et également en impact aussi sur la formation, parce qu'il y a un besoin de formation à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet de la qualité de l'air intérieur.
Parfait, alors on va en parler évidemment avec vous, et on a également retrouvé Fabien Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, qui est en charge de la démarche QAI au pôle ingénierie maintenance de CDC Habitat. C'est important pour nous, je le disais tout à l'heure, d'avoir un bailleur social. Quelques mots supplémentaires pour présenter CDC Habitat.
Alors oui, donc Fabien, merci. Donc je suis responsable équipement et services associés au sein de CDC Capital. C'est une composante de la Banque des Territoires et c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Alors c'est un opérateur global de l'immobilier en France à travers les multiples activités qu'il peut avoir. Ça représente aujourd'hui 530 000 logements gérés, dont 18% dans les départements et territoires d'outre-mer. Et on loge actuellement un peu plus d'1,1 million de personnes.
Ah, merci. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, évidemment, vous n'avez sûrement pas pu entendre le début du débat, mais je voulais vous faire commenter aussi ce sujet de la qualité de l'air intérieur, qui est un enjeu écologique et puis aussi un enjeu de santé. Souad Boualala-Selmi, est-ce que vous pouvez nous en dire votre point de vue, même si vous allez peut-être répéter évidemment certaines choses par rapport au précédent intervenant, mais c'est toujours bien de le préciser.
Alors, donc, notre point de vue au niveau de l'ADEME, et même vu à plus grande vision, beaucoup plus large, c'est un enjeu donc de santé publique à court ou à long terme. Je vais écouter sur le plateau, il y avait des chiffres. Je vais juste rajouter des chiffres de morts directes, parce qu'il y a encore des polluants comme le monoxyde de carbone, où on a quand même à peu près 100 morts par an et plus de 3000 personnes intoxiquées par an. Et il y a le radon, on entend pas assez parlé, je trouve, qui est quand même issu dans certaines zones géographiques dans les sols, où c'est une cause quand même de 3004 décès cancer du poumon par an. Donc, et je ne parle pas après des autres polluants, de tout le cocktail de polluants auxquels nous respirons, à la fois l'effet air extérieur qui a été évoqué tout à l'heure, et puis les sources internes. Donc voilà, on va pas rentrer dans les sources, mais alors les enjeux, il y a un enjeu aussi économique. Il y a eu le coût de la pollution de l'air intérieur est de 19 milliards d'euros minimum par an sur 6 polluants dont on connaît les effets sanitaires, dont la fumée de tabac est comprise dans ces 6 polluants, mais c'est un chiffre minimum. Et il y a également un enjeu social. Il y a eu la journée de la précarité énergétique le 9 novembre dernier, où ce sont eux qui sont également impactés en mettant des chauffages d'appoint qui sont déficients, en bouchant les entrées d'aération, et également un enju environnemental, parce qu'on a assisté à des réglementations thermiques en 2005, en 2012. On a la RE 2020 qui arrive, où on prend en compte l'aspect changement climatique et les mesures de ventilation-réception, mais encore un long chemin à faire pour vraiment intégrer la qualité de l'air intérieur d'une manière ou qualité environnementale des airs intérieurs. C'est ce qu'on espère dans la suite des réglementations suivantes.
Exactement, et on va en parler aussi avec les acteurs, ce qu'ils mettent en application. Alors, vous parliez de précarité énergétique, donc évidemment, Fabien Mercier aussi, c'est un sujet, on va dire, qui vous concerne particulièrement, si on prend en compte, voilà, pour commencer, une vision globale de ces enjeux.
Oui, tout à fait, la précarité énergétique, c'est quelque chose qui nous occupe. On a beaucoup travaillé sur la précarité énergétique, donc ça fait partie des préoccupations que l'on peut avoir avec la population que l'on peut loger. Pour notre part, en plus de la précarité énergétique à laquelle on fait vraiment beaucoup attention et on y joint sur ce sujet-là beaucoup de sensibilisation, d'une première part, et un plan de rénovation conséquent pour pouvoir répondre à cette précarité et améliorer le quotidien de la population. Sur ce qui est de la qualité de l'air, effectivement, je vois qu'on a les mêmes attentes, on a les mêmes points de vue, notamment sur la prise en considération donc de cette préoccupation de la population, le fait qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur, 80% environ en milieu clos pour les adultes, jusqu'à 95% pour les enfants. À cette précarité associée au logement, on peut voir effectivement les nouveaux usages qu'on peut avoir liés au télétravail. Et effectivement, au niveau santé, on vient répondre à toutes ces problématiques que vous évoquiez jusqu'à maintenant, les nouvelles directives de l'OMS, etc., etc.
voilà, qui viennent de relever aussi le seuil hein, de problématique, et on comprend bien. Donc c'est vrai qu'à part, on a répété peut-être certains chiffres, mais c'était important aussi d'avoir votre point de vue déjà sur la question. Et évidemment, on va en arriver au cœur du débat, se demander justement si la qualité de l'air, c'est le parent pauvre du bâtiment, et comment on peut faire pour agir. Alors, votre point de vue sur cette question, Bruno Georges ?
Alors, mon point de vue, c'est peut-être aussi... c'est pas si faux que ça. Et c'est pas si faux que ça parce que on vit dans un monde qui est terriblement cloisonné. Moi, mon boulot dans ma structure OTIS, c'est d'essayer de décloisonner, c'est-à-dire de faire que les gens se parlent. Ça peut paraître bizarre, mais les ingénieurs, les maîtres d'ouvrage, les banquiers, les assureurs, les architectes, tous les acteurs du bâtiment sont des ultra spécialistes. Et il faudra arriver à trouver le moyen, le biais, le changement culturel pour les raccommoder un peu plus. Alors il y a des équipes avec lesquelles c'est formidable et ça se passe de manière très très bien. Mais statistiquement, ce n'est pas si évident. Et pourquoi je fais ça en introduction ? C'est parce que souvent on parle de qualité d'air, de bonne qualité d'air, et on trouve la réponse technique. Point barre. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a vraiment quatre sujets. Il n'y en a qu'un seul qui est que technique. Il y a le sujet de comment on construit, c'est-à-dire comment on se débrouille pour que ça émette peu. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas les fameux polluants que vous évoquiez tout à l'heure. Pas compliqué. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, les peintures, les traitements, les revêtements de sol, les plafonds. Il y a tout un panel de matériaux du second œuvre qui coûtent quasiment le même prix.
Oui, j'allais vous poser la question, parce qu'il y a toujours la question du coût. Si ça coûtait plus cher, on va peut-être pas nécessairement. On sait bien qu'on est
quasiment
toujours
le même prix. Aujourd'hui, une laque alkyde, ça coûte pareil qu'une peinture le même prix qu'une peinture glycérophthalique, et ça émet rien par rapport à ce genre de revêtement. Je parle que de cette peinture. On peut même aller un peu plus loin, et là, il y a un peu de plus-value avec des peintures qui deviennent biosourcées, avec des algues et des choses comme ça, qui du coup ont aussi un deuxième rôle. Donc il y a cette histoire de seconde œuvre, au milieu il y a la technique, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a des outils. Et puis il y a deux autres choses qu'on oublie souvent, c'est les gens. C'est-à-dire que si on met des bons matériaux, on met de la bonne technique, mais qu'on met un coussin qui émet des formaldéhydes, des COV, etc., et bien le travail des deux premiers sera balayé.
Donc, il y a la notion... C'est compliqué de ne pas mettre de coussins quand même chez soi. Il faut trouver des bons coussins, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Et là quand difficile. On parle de parents pauvres, on est vraiment dans le sujet. Vous achetez un matelas, aujourd'hui, le matelas, il n'a pas d'étiquette. Comment ça se fait ? Vous avez le nez dessus. Le tiers de votre fille, et il n'y a pas de classement de ces choses-là. Et puis, le dernier truc, et là, c'est des gestes de quotidien de vous et moi, c'est le pchit-pchit dont on sert pour nettoyer la table, pour nettoyer le plan de cuisine. Pour nettoyer les sols, tout ça c'est pareil. Il y a un médecin qui s'appelle Suzanne Desoux, qui est un médecin du bâtiment, qui est merveilleuse et est médecin, donc elle sait de quoi elle parle. Elle dit attention, quand on dit ça sent bon le propre, c'est une aberration. Le propre ne sent rien.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas sentir toutes ces odeurs. Et rajouter des bougies parfumées aussi, je pense que ce n'est pas l'idéal non plus.
Voilà.
C'est
donc ça vous avez vu ce que je veux dire dans... J'ai peut-être été un peu long. C'est vraiment la chaîne des quatre. Hein. On construit comme il faut pour ne pas émettre. On met de la technique, on va en parler. Oui. Et puis quand on met du mobilier, y compris du mobilier pour équiper des écoles, etc., etc., on doit faire attention à la provenance. Des gros fabricants que je nommerai pas, un peu suédois, ont fait par exemple de très très gros progrès sur la qualité des panneaux d'agglomérés, mais il y a encore du chemin. Et puis in fine, chacun, nous trois là, quand on met son produit pour nettoyer, aujourd'hui un petit pchit pour faire la vaisselle ou nettoyer la table écolo, ça coûte le même prix que le vilain qui s'en soit disant bon, mais qui est une catastrophe en termes de COV et de formaldéhyde.
C'est bien le vinaigre blanc ?
Parfait.
Ou le bicarbonate, les choses de grand-mère auxquelles on revient. Alors, je vais passer la parole à Pascal Housset, puisqu'on a parlé aussi technique. C'est vrai qu'ici, on s'adresse aux professionnels du bâtiment. Bon, après, ce que les gens en font, ne pas oublier d'aérer. On a bien compris, avec le Covid, on nous a dit d'aérer régulièrement aussi, parce que ça, c'est évidemment majeur. Ce que vous mettez en place, voilà, à la question, est-ce que ça a été le parent pauvre ? Il y a eu parfois aussi... peut-être des installations qui n'ont pas été totalement parfaites à ce niveau-là, mais vous êtes en train de changer, de faire évoluer les choses ?
Oui, tout à fait. En fait, la création de l'Association française de ventilation, elle est venue aussi d'un constat, c'est-à-dire qu'on a pu malheureusement constater qu'il y avait plus de 50% des installations de ventilation qui ne donnaient pas satisfaction, qui présentaient des anomalies. Donc, bien sûr, il faut agir à plusieurs niveaux. Donc déjà, il était important que la profession des installateurs-mainteneurs se prenne en main, organise effectivement des formations adéquates pour monter en compétences les entreprises. Ça nous semblait effectivement très, très, très important. Et puis aussi, communiquer sur la maintenance des installations, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup d'installations de ventilation qui ne sont pas entretenues. Mmh. Même si les installations ont bien été réalisées à la base, celles-ci ne sont pas suivies, ne sont pas nettoyées, ne sont pas entretenues. Donc, bien évidemment, ça pose des soucis. Et pour répondre à la question, effectivement, du parent pauvre, trop souvent, malheureusement, le lot ventilation, si je puis dire, et je parle sous contrôle de Bruno Georges, était un peu le curseur économique de la construction, mmh. de la rénovation d'un bâtiment. Donc, finalement, voilà. Donc, tous ces points-là nécessitent vraiment d'être vus en complément de ce qui vient d'être dit, bien évidemment, que j'approuve tout à fait.
Voilà, on va rentrer peut-être un peu plus en détail aussi. Sur ces solutions techniques dans un instant, mais votre point de vue aussi, Fabien Mercier, sur ces questions-là, comment un bailleur social aussi s'engage, hein, vous l'avez dit aussi, ça passe beaucoup par l'information.
Oui, effectivement, ça passe beaucoup par l'information, la sensibilisation, les éco-gestes, tout ce qu'on peut associer enfin, à cette démarche, enfin, nous, le locataire, l'occupant, et systématiquement associé, de manière à ce qu'on puisse mesurer effectivement des impacts ou des bénéfices. On associe toujours le locataire et on essaye donc à travers différents outils de lui pousser de l'information. Pourquoi lui pousser de l'information ? Ben, pour voir si cette information elle peut agir sur son quotidien, par exemple. Pour revenir du coup sur un projet qu'on a pu mener sur la métropole Aix-Marseille. C'est un projet qui consiste à prendre des mesures de qualité de l'air extérieur et de voir si on a un impact sur la qualité de l'air intérieur à travers la distribution de capteurs citoyens. Pardon. Donc, quelle influence on peut avoir entre les deux ? Bon, il faut savoir que la distribution de capteurs citoyens, elle est là, donc c'est intéressant de savoir déjà que 3000 personnes ont répondu à cette initiative. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une préoccupation, il y a un intérêt à avoir accès à cette information. La population cherche à avoir de l'information, à savoir comment on peut, enfin, quel usage on peut en faire, hein, quelles données on va pouvoir collecter. Donc ce projet-là. Donc, c'est déterminer quelle influence peut avoir la qualité de l'air intérieur sur la qualité de l'air la qualité de l'air extérieur sur la qualité de l'air intérieur. Et donc, dans le cadre de ce projet, on va voir comment l'accès à l'information, comme je disais tout à l'heure, peut influencer positivement le quotidien des occupants à travers l'aération, à travers des conseils qu'on va pouvoir associer à cette collecte de données et au support. De type application qu'on va pouvoir leur mettre à disposition.
Donc ça, c'est un projet que vous êtes en train de mener, c'est ça qui doit se terminer à quel horizon ?
Ça va se terminer, c'est pour l'année 2022, donc c'est un projet intéressant parce qu'il associe plusieurs acteurs. Bruno Georges en parlait tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'il faut arriver à mettre un peu, à faire parler tout le monde un peu ensemble, et ça met beaucoup d'acteurs autour de la table pour prendre des mesures, pour étudier les variabilités, pour modéliser des flux d'air extérieur, pour voir socialement ou sociologiquement de quel impact ça peut avoir sur la population. Donc, ça fait partie des expérimentations intéressantes qui permettent de comprendre et d'agir justement sur les actions et sur les usages des occupants et des citoyens.
Alors, soit de Boilala Selmi, on a entendu beaucoup de témoignages aussi d'acteurs. On peut dire que quelque part, ça a été le parent pauvre, mais que les choses sont en train d'évoluer ?
Oui, on peut dire que les choses ont évolué. Déjà, hier, il y avait toute une journée sur les 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a été mise en place donc en 2001, qui a permis de prendre conscience à travers ces campagnes dans différents lieux, dans les logements, dans les écoles, dans les bureaux, les établissements médico-sociaux, d'avoir une photographie de la qualité de l'air intérieur et de voir les défaillances. Et ça a donné lieu à de la part du côté de l'ADEME et au pouvoir public de prendre en compte cette mauvaise qualité de l'air intérieur, d'où les évolutions réglementaires qui en découlent avec l'étiquetage donc qui a été évoqué tout à l'heure, l'étiquetage des matériaux, la surveillance dans les établissements recevant du public. Mais il faut avancer, il faut continuer à avancer. Au niveau de l'ADEME, donc l'ADEME accompagne les acteurs à la transition écologique et il faut savoir que l'enjeu de la massification de la rénovation des bâtiments est important parce que les bâtiments représentent près de la moitié de la consommation d'énergie nationale et il représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu de la rénovation est important et il ne peut se faire sans prendre en compte justement d'autres enjeux environnementaux tels que la qualité de l'air intérieur, les aspects acoustiques. Donc voilà, alors nous, je ne sais pas si on va arriver aux solutions. Ce que nous, on a fait donc des appels à projets de recherche pour essayer de comprendre, améliorer les connaissances. Donc tout ce qui a été évoqué chez l'occupant, l'occupant apporte un rôle également. On ne parle pas du tabac, mais ça, cela va de soi. Il faut éviter le tabac, éviter justement tout ce qui est encens, bougies, etc. Savoir choisir produits d'entretien, mais également, on s'adresse également aux professionnels du bâtiment. Il y a eu mis en place avec Medieco, donc dont Suzanne Déhoux est impliquée sur des vidéos, des ateliers AirBat. En fait, c'est des vidéos qui ont été mises en place pour sensibiliser les gens, les acteurs du chantier à la problématique composés organiques volatiles, moisissure et ventilation, le problème de ventilation a été évoqué tout à l'heure, et puis il y a des accompagnements sur chantier d'une manière, sur 2 heures, autour d'un repas ou d'un café, voilà, pour leur apprendre les bons gestes à prendre en compte auprès des artisans. Il y a également des engagements que l'ADEME a mis en place, une sorte de management de la qualité de l'air écrin, engagement à construire pour un intérieur sain, qui s'adresse à tous les professionnels du bâtiment, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, artisans, pour qu'à chaque étape, dès la conception du bâtiment ou lors d'une rénovation lourde, on prend en compte cette problématique. Ce sont des gestes simples qui existent, mais qui sont parfois mal faits. Donc, c'est tout un suivi à cette étape. Donc de la conception jusqu'à avec des mesures sur site et un an après de voir voilà si des mesures à la fois de pollution de polluants et des mesures de système de ventilation des débits d'air pour voir s'ils sont bien à réception. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire de formation, de sensibilisation, d'avancer dans les recherches. Voilà, parce que on parlait du coût tout à l'heure, je me dis il vaut mieux un surcoût et avoir un bâtiment sain que de se retrouver, parfois il y a des cas, on voit dans les médias, des écoles qui ne s'ouvrent pas parce qu'on voit qu'il y a un transfert de métaux lourds qui passent ou de composés organiques volatiles. Voilà, on ne peut pas ouvrir l'école pour des raisons sanitaires. Donc il vaut mieux anticiper, mettre plus d'argent au départ pour avoir un bâtiment sain. Et ça, voilà, et on a un avantage à tous les niveaux, avantage pour l'occupant, avantage économique. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus au départ, mais pour avoir une durée de vie plus longue, à la fois pour le bâtiment et pour les occupants.
C'était important à préciser, notamment l'apprentissage pour les professionnels, on va dire, on en arrive aux solutions. Alors, je vais avoir 2 questions en une, quelque part. C'est d'un côté que chacun puisse dire un petit ce qu'il peut y avoir aussi comme solution. Et puis, on a quand même entendu parler, soit de Boualala Salmi en parler aussi de la réglementation, la fameuse RE 2020 dont on parle souvent ici, la loi climat et résilience. Le réglementaire, quand même, fait bouger les lignes.
Vous croyez ?
Vous pensez ? Non, c'est pas le réglementaire. D'accord.
Aujourd'hui, si je suis conforme, quand je fais la ventilation d'une classe maternelle, je mets 12 mètres cubes par personne, par gamin. Ce gamin-là, il est en train de se faire des millions de cellules de son cerveau, alors que moi, à l'âge que j'ai, j'essaie de garder ce que j'ai, déjà. Donc, lui, il a beaucoup plus besoin d'oxygène que moi. Et pourtant, il est à 12.
Donc, vous dites qu'il faudrait vraiment revoir tout ça.
Aujourd'hui, nous, par exemple, en standard, dans nos conceptions, on est à 30 mètres cubes, gamin compris. Et ça, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, et ça rejoint beaucoup ce que dit la personne de l'ADEME, pour moi, il ne faut pas attendre le réglementaire. Si on attend le réglementaire... Là, n'oublions pas que le réglementaire, c'est la voiture balai. C'est le truc qui récupère les derniers du peloton. les pas très bons.
Qui fait bouger les lignes de ceux qui n'ont pas bougé avant, c'est ça?
Voilà, c'est ça, hein, c'est un ramasse-miettes. Hein. Donc, n'attendons pas la réglementation, hein, faisons tout de suite. Et surtout,
et donc, vous faites vous tout de suite?
Bien sûr, bien sûr. Nous, notre standard de design, c'est 30 mètres cubes par... Il y a certains programmes où on dit, non, on veut que 25. On nous impose ça parce que, soi-disant, ça coûte plus cher, etc. Alors que l'enjeu n'est pas là. Si on fait intelligemment, on peut faire moins cher à 30 mètres cubes qu'à 25. Donc, l'ingénierie doit s'impliquer pour arrêter de faire des choses à la classique. Hein, nous, on développe à ICO, il y a des réflexions sur le sujet pour faire plus malin, hein, arrêter d'avoir des postures d'ingénieur, pas ingénieux, justement. Il faut se mettre dans des logiques de simplification. Moi, je suis très, très Saint-Exupéry qui dit la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et ça, aujourd'hui, et la RE 2020, là, pour le coup, cogne fort, c'est si l'analyse de cycle de vie devient l'outil de la conception, eh bien, on est dans des logiques d'avoir une grande attention énergie grise, carbone. Et donc, plus on enlève de matériel, plus on est bon sur ce registre-là. Donc, aujourd'hui, la vraie conception, c'est d'arriver à faire la meilleure qualité d'air possible. Et je vous rejoins complètement sur le fait qu'il y a un certain nombre d'installations de ventilation qui ne marchent pas très bien. Et à ce titre, l'AQC fait de très bons ouvrages qui permettent de regarder tous les points, c'est une espèce de checklist, les points d'attention pour que ça fonctionne bien, pour que la techno fonctionne bien. Mais aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur cette vision globale. Hein, il faut peut-être aussi penser... que d'un côté, il y a la loi qui impose des débits et derrière, on met de la technique qui est induite par la loi. Et puis, il y a des choses, par exemple, comme la ventilation naturelle. Hein, ça, c'est une conception d'architecte pour faire que du logement est traversant et qu'on puisse faire de la ventilation naturelle. Avec de la ventilation naturelle, on est à 4, 5, 6, 7, 8 volumeurs facilement. Mmh. Alors qu'en en mécanique, on est au minimum. Ce minimum, il faut de toute façon l'assumer. Mais si, par la ventilation naturelle, pendant toute l'intersaison, on peut faire 5-6 volumes, ça sera encore mieux. Donc, vraiment revenir à... quitter un peu ces armures de faciles. Hein, c'est confortable d'être dans une armure. Ça dépend des situations. Mais quittons un petit peu ça pour revenir vers le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la santé des humains. Donc, essayons de trouver les moyens de ventiler le mieux possible. Et par exemple, on sait qu'on a un petit peu moins de liberté sur le résidentiel, puisque le résidentiel a un cadre réglementaire que vous évoquiez tout à l'heure, dans lequel on dit que la ventilation n'est pas du désenfumage, mais participe au désenfumage. Donc, c'est cadré de manière réglementaire, de manière assez rigide. C'est un manque total de souplesse. Donc, de toute façon, il faut être conforme à ça. Et par exemple, on ne peut pas mettre plus de débit. Donc, faisons des bâtiments dans lesquels, pendant toute l'intersaison, on peut faire de la ventilation naturelle. Et là, on aura effectivement une meilleure qualité d'air.
Une meilleure qualité d'air. Alors, je vais me tourner vers Pascal Housset. De la même façon, alors, l'ARE 2020, ça fait bouger les lignes, mais vous aimeriez aller que ça aille encore plus loin, c'est ça?
Oui, parce que finalement, on parle de ARE 2020, mais en même temps, en parallèle, on a des textes réglementaires sur la ventilation qui datent de 1982. Donc voilà, cherchez l'erreur. Donc il y a quand même déjà une distorsion à ce niveau-là. Donc nous, ce que nous souhaiterions à l'Association française de ventilation, c'est qu'on puisse réviser ces textes de 82. Et comme l'a très bien dit Bruno, on ne va pas attendre que ce soit le réglementaire qui fasse tout. Donc effectivement, on a un travail qui est en collaboration, que ce soit avec le CSTB, effectivement un certain nombre d'entités pour pouvoir produire des fiches pour les chantiers, pour accompagner les chantiers, également avec la QC. Hein. L'idée, c'est de pouvoir faire ce qu'on a fait d'ailleurs lorsqu'il y a eu la mise en place du BBC, finalement, avec une préparation de chantier, avec la possibilité de communiquer aux entreprises, la possibilité d'évoluer. Et pour finir, donc la RE 2020, effectivement, on pense que ça ne va pas assez loin sur la partie réception de travaux et mise en service des installations, puisque finalement, on nous dit qu'on doit attester qu'on a fait des tests. Maintenant que les tests soient bons ou mauvais, finalement, on réceptionne quand même les travaux en l'état.
Ah oui, que ça soit bon ou mauvais.
Bah, finalement, si on prend à la lettre le sujet, on est complètement dans ce site. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est de faire... finalement, on prend beaucoup l'exemple de ce qu'on a su faire pour le gaz. Il y a plusieurs décennies maintenant. Rappelons-le, sur le gaz, on est à moins de 5% de taux d'anomalie au niveau national. Donc, si on veut avancer de même manière, l'idée que nous proposons, c'est de faire un certificat de conformité ventilation. Lorsqu'il y a un logement neuf qui se fait, au même titre qu'on l'a fait pour les installations gaz, on fait ce certificat. Et là, on a un cadre, on a un checklist, comme ça a été dit, de points de contrôle qui est fait par l'entreprise. Et là, pour le coup, ce n'est pas considéré comme une contrainte pour les entreprises, parce que c'est nous qui le proposons. Voilà. Donc, et là, je pense que c'est sécure pour tout le monde, que ce soit pour les concepteurs, que ce soit pour que ce soit la promotion privée ou des bailleurs sociaux, finalement, pour l'entreprise, qui est quand même la responsabilité, sa décennale qui est engagée là-dessus. Donc voilà, donc c'est là-dessus que nous allons travailler. Mais bien évidemment, nous n'allons pas attendre le réglementaire. On va mettre des plans d'action en place avec un certain nombre de partenaires. Et puis, on verra ensuite comment on avance. On a déjà fait 12 propositions de textes dans le cadre de la loi climat par le biais de notre association, qui ont été accompagnées par un certain nombre de parlementaires. Voilà, donc maintenant, on va continuer les travaux sur ce sujet réglementaire.
Et travailler avec les acteurs, par exemple, les bailleurs sociaux. C'est un des axes aussi.
Oui, tout à fait. Ça fait partie, effectivement, des travaux que nous menons. Et puis, bien évidemment, avec les bureaux d'études, les architectes, où il y a des échanges importants à avoir pour mieux se parler et être plus opérationnel. Et encore une fois, la qualité d'air à l'intérieur, ça concerne tout le monde. Donc, on a plutôt intérêt à y aller ensemble.
Ouais, on voit que c'est transverse, en tout cas. Alors, Fabien Mercier, justement, je vous passe la parole, puisqu'on parlait des bailleurs sociaux. Peut-être réagir, vous, de votre point de vue sur le réglementaire et puis aussi vos ambitions, ce que vous proposez de faire, notamment d'agir sur la performance des équipements.
Tout à fait. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une évolution de l'espace réglementaire. C'est associé en fait aujourd'hui à des évolutions techniques qui permettent quand même de prendre des mesures, enfin une prise de mesure facilitée sur cette thématique-là. Mais il y a des dispositions qui restent encore aujourd'hui très peu encadrées sur le plan stratégique du terme. Donc ce qu'on voudrait arriver à faire, ce qu'on propose, on propose d'agir de la manière suivante dès aujourd'hui sur la performance des équipements, parce qu'on a un gros challenge sur l'exploitation. On parle beaucoup de conception, etc., mais la partie exploitation, le suivi de la performance d'une installation, les aléas, les problématiques qu'on peut rencontrer pendant la phase d'exploitation est à suivre de près. Donc, on propose d'agir effectivement sur la performance des équipements afin de mesurer et d'anticiper la variabilité entre le confort d'hiver et le confort d'été, par exemple. Donc, nous, ce qu'on propose, le premier engagement qu'on a au CNCDC Habitat, c'est la prise en compte de la qualité de l'air dans notre prescription. Donc, dès la conception, effectivement, à travers des capteurs de mesure, on essaye de la prendre en compte, de voir comment pouvoir la mesurer, en fait. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on associe dans notre démarche, et notamment au niveau de l'exploitation, de pouvoir proposer des conseils ou des éco-gestes via des applications spécifiques ou des services, pas forcément payants, hein, mais informer l'utilisateur, l'occupant sur ce qu'il sur les mesures qui ont pu être effectuées dans son logement. On peut, pour prendre exemple sur la dernière expérimentation qu'on a pu faire, à partir du moment où on place d'un capteur de qualité de l'air intérieur, on va essayer de l'associer à des vignettes et l'informer de l'état de qualité de l'air dans son logement. Et en fonction de la vignette, tout simplement aérer la fenêtre. On l'a dit tout à l'heure, ça suffit largement pour pouvoir retrouver un taux de l'indicateur qu'on aura choisi. Ça peut être le CO2 ou autre, ou d'hygrométrie satisfaisant. Donc, on va s'appuyer sur de la donnée disponible et également pour adapter des préconisations en phase d'exploitation et en agissant directement sur le fonctionnement des systèmes de ventilation ou de traitement d'air. Ce qu'on va chercher à faire, l'objectif, et comme je l'avais dit dans le cadre d'une stratégie, c'est vraiment de partir de la conception et d'aller au plus loin jusqu'à l'exploitation et l'utilisateur. Si on peut illustrer ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut imaginer que tout comme le fonctionnement d'une installation de chauffage pourra varier en fonction d'une température de consigne ou de température extérieure, on pourra éventuellement faire varier le fonctionnement d'une installation de VMC qui pourra être associée à une mesure de polluant ou un taux d'hygrométrie et assurer des débits convenables tout au long de cette phase d'exploitation.
Alors, je vais en arriver à la conclusion, parce qu'on a commencé à voir, on peut dire que quelque part, la qualité de l'air intérieur a été le parent pauvre du bâtiment. C'est un peu la conclusion qu'on peut faire de cette table ronde, mais qu'on voit que les acteurs se mobilisent bien au-delà de la réglementation. Qu'est-ce que vous voudriez dire en conclusion, Swat Boalala-Selmi?
Ce que je veux dire en conclusion, donc c'est important quand même que la réglementation suive aussi, parce que rien que le fait de mesurer les débits de ventilation à réception, bah, c'est important. Pour corriger ces anomalies, au moins on est informé. Le fait que quand quelqu'un vend un logement dans une zone radon, que l'occupant soit informé, c'est important. Donc il y a des choses encore. Je pense que la réglementation doit aussi évoluer pour prendre en compte de plus en plus cet aspect qualité de l'air intérieur ou qualité environnementale des bâtiments. Ça permet quand même, que tout le monde. Et puis il y a des actions d'innovation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, former les gens du chantier, former les occupants, sensibiliser. L'expérience qui vient d'être évoquée dans les logements sociaux. Ben, il y a une étude qui a été menée dans le Nord un petit peu. Il y a eu 4 groupes de personnes. Je vais faire rapide. Et c'est d'accompagner la mesure avec les gestes à mettre en place, leur faire comprendre en mettant, il y a le guide Un air sain chez soi par l'ADEME qui est assez simple, pour qu'ils comprennent à quoi est due cette pollution. Ils ne vont pas retrouver la source, mais avec le capteur, ils voient que ça monte, au moins, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, parce que les 3 axes quand même sur lesquels il faut avoir en tête, c'est limiter les sources, assurer un bon renouvellement de l'air, que ce soit par ventilation naturelle ou ventilation mécanique, et jouer par la suite, on n'a pas parlé des opérateurs, là, c'est un autre sujet, mais vraiment limiter la source, ventiler, que ce soit au niveau des chantiers, et que ce soit au niveau de l'occupant, de l'exploitation du bâtiment.
C'est important à préciser. Je ferai le tour de table ici en studio tout à l'heure. Je repasse la parole à Fabien Mercier pour une conclusion.
En conclusion, on peut dire, pour ces habitats, c'est que la transition énergétique, quelque part, elle a fait l'objet de nombreuses dispositions d'encadrement. Elle est derrière nous, si on peut dire, aujourd'hui, mais on a un vrai challenge sur la transition environnementale en la matière, qui est devant nous dans un contexte qui évolue et qu'on doit prendre en compte. On l'a vu tout à l'heure sur les risques liés à la santé, etc. Donc, il faut vraiment… C'est le challenge de demain. Et la qualité de l'air en fait partie, bien entendu, est une grosse composante de cette transition environnementale.
Oui, et peut-être justement que les choses ont changé avec la situation qu'on vit actuellement.
Tout à fait.
Très, très clairement.
Entre autres, bien entendu.
Exactement. Oui. Pascal Housset, une conclusion ?
Oui, on voit bien que pour le neuf, les choses vont aller assez vite finalement. Par contre, là où il y a un énorme travail à faire, c'est dans le cadre de la rénovation. Donc j'ai envie de dire, pas de rénovation sans ventilation.
Et quand on sait que la rénovation, c'est le gros enjeu, parce que le neuf, on en a 1 ou 2% par an, mais le reste, il va falloir accélérer le mouvement.
Tout à fait, et on reste aussi convaincu qu'il faut embarquer davantage les utilisateurs, les systèmes de ventilation. De manière, il y a beaucoup de pédagogie, on voit bien au travers des échanges que nous avons eu ce matin, il y a beaucoup de pédagogie à avoir. Aussi, il faut embarquer davantage dans les logements, les habitants à connaître, à pouvoir mesurer. En fait, ça a passé beaucoup par la mesure, finalement.
Aussi. Par la mesure et par le contrôle. Vous l'avez dit, on ne peut pas se contenter de livrer un bâtiment sans le contrôler ou voir régulièrement. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait presque contrôler régulièrement les bâtiments. Après on vérifie l'amiante, les bestioles en tout genre et la qualité de l'air, il faut y penser.
Oui, dans les propositions que nous avons faites, c'est également que la maintenance, on a parlé d'exploitation maintenance, elle soit obligatoire, au même titre que pour les installations de chauffage. Donc, c'est des propositions que nous avons faites. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où ce n'est pas obligatoire, on sait très bien que malheureusement, bien souvent, ce n'est pas fait.
C'est pas fait. Alors Bruno Georges, pour une conclusion.
Alors pour une conclusion, je serais en parfaite cohérence. On dit toujours, sans mesure, on ne peut pas évoluer. Mm-hmm. Imaginez que dans votre voiture, il n'y a pas de compteur de vitesse. Comment vous allez faire pour savoir à quelle vitesse vous êtes? Je reviendrai sur mon introduction en disant il faut absolument une vision globale, il faut conscientiser les gens. Et aujourd'hui, tout est sur étagère. Tout le matériel dont on a besoin pour faire très bien en ventilation, pour faire une parfaite qualité d'air, vraiment de très bon niveau, tout est sur étagère. Donc, si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un manque de volonté. Alors, il y a un manque de volonté programmatique. Demander aux donneurs d'ordre d'être un petit peu plus exigeants sur leur programme. Et je rejoindrai complètement le propos de l'ADEME en disant, c'est pas une histoire d'argent. La santé, ça coûte combien ?
Mais vous avez vu, les bailleurs sociaux, dans leur prescription, ils se disent maintenant, on va le mettre.
Tout à fait. Donc, il y a cette dimension-là. La deuxième dimension, c'est vraiment revenir vers cette vision globale, permettre dans le résidentiel de faire de la ventilation naturelle traversante. Et dans le tertiaire, peut-être aussi anticiper un peu sur un demain. On va pas vers
Parfois, on a du mal à ouvrir les fenêtres dans le tertiaire. Parfois, on ne peut pas les ouvrir.
On est tout à fait d'accord. Alors ça, c'est des vieux trucs d'ingénieurs. Alors après, je sais jamais dans quel sens... De dire si c'est des vieux trucs d'ingénieur ou des trucs de vieux ingénieurs. Mais en tout cas, dire on n'ouvre pas les fenêtres parce qu'il y a du double flux, c'est une aberration. On met en œuvre, nous, chez OTIS, des systèmes de ventilation double flux débrayable, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne et qui garantit la qualité de l'air, mais qui fait que sur action volontaire des gens, on peut passer progressivement, et local par local, dans l'enseignement par exemple, à de la ventilation naturelle, parce que les gens sont volontaires à le faire et qu'on leur a dit « c'est bon, maintenant il n'y a plus d'enjeu énergétique ». Mais je voulais revenir sur le fait qu'il faut absolument que... avoir cette vision globale, donc les architectes pour le traversant, les architectes et les économistes pour les matériaux, les bailleurs sociaux, les accompagneurs, les gestionnaires pour le mobilier et pour les séquences de maintenance et de ménage et d'entretien. Et puis peut-être voir un peu l'avenir. On ne va pas tellement tout de suite. Cette cochonnerie qui nous entoure aujourd'hui, qui induit le changement climatique, etc. On sait qu'il y a plein d'efforts qui sont faits, c'est très positif, mais on sait que ça a de l'inertie. Donc on a encore quelques décennies dans lesquelles ça va être cracra, excusez-moi du mot, mais peut-être anticipé. Hein. Et aujourd'hui, on sait très bien faire avec de la filtration, enlever tous les polluants, mais on ne sait pas aujourd'hui encore traiter les formaldéhydes, les COV, etc., qui sont très présents. Et peut-être que nous, par exemple, c'est ce qu'on fait très fréquemment. En tertiaire, on met un caisson neutre sur les centrales de traitement d'air, un caisson de 1 mètre dans lequel il n'y a rien. Parce que peut-être rien que dans 5 ans, on va faire, parce qu'il y a des programmes de recherche là-dessus, des filtres à catalyse ou des choses comme ça qui seront capables d'enlever les COV et les formaldéhydes. Donc pensez à demain, se projeter. Et ICO, c'est on vise 2050, mais on agit tout de suite.
Voilà, ça fait une très bonne conclusion. Et en tout cas, oui, il va falloir encore beaucoup innover dans ce domaine-là. Mais on voit des acteurs engagés. Merci à vous, donc Bruno Georges, qui représente l'association d'ingénieurs ICO, comme vous l'avez dit, ingénierie du confort objectif 2050. À Pascal Housset, le président de l'Association française de la ventilation. Également à Swad Bolala Selmi, ingénieur qualité de l'air à l'ADEME. Et Fabien Mercier, en charge de la démarche qualité de l'air intérieur pour l'ingénierie maintenance à CDC Habitat. Merci à tous les deux. On a fini par vous retrouver et pouvoir quand même vous faire échanger, même si vous avez peut-être eu un temps de parole moins important. Mais l'essentiel, c'était de débattre du sujet. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite où on va parler de la rénovation énergétique dans les territoires et à l'honneur ce mois-ci, la Normandie.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.